Salut tout le monde. Ben écoutez, méchant choc hier. Moi, j'ai encore les images parce que j'ai des écrans de télévision qui continuent à décrire ce qui s'est passé au Capitole à Washington, où les deux niveaux de gouvernement, c'est-à-dire le Congrès et la Chambre des représentants, est en train d'essayer de voter la sermentation, c'est-à-dire l'officialisation de la victoire de Biden. Des manifestants sont rentrés là-dedans, mais là, ça commence à ressembler à une insurrection. Il y a beaucoup de conséquences. Je vais vous demander quels seront les impacts, d'après vous, d'une action comme ça aux États-Unis. On n'a jamais vu ça. Alors, vous pouvez m'appeler au 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Tout de suite, on va parler à Valérie Beaudoin, qui est notre chercheure associée à la chaire Raoul Landurant, chroniqueuse politique américaine au réseau Cogeco. Salut Val.
Salut Dan.
Écoute, c'est effectivement, c'est un méchant choc. Je me demande vraiment, pour commencer, juste regardons l'extérieur du pays. Parce que moi, ce que je me dis, j'ai lu la chronique d'Yves Boisvert, puis il dit, ben écoute, il y en a, Poutine est très content en ce moment. Mais c'est pas juste lui, là, c'est Xi Jinping, c'est les leaders qui sont des ennemis des États-Unis, doivent se gargariser en ce moment, doivent trouver ça drôle, maudit, ils ont.
Écoute, quand c'est l'Iran qui dit que la démocratie occidentale est fragile et vulnérable et que c'est le pays qui nous critique, la Chine, tu l'as dit, la Russie aussi, qui dit bon que finalement les gens avaient un peu une raison de contester ce que les gagnants ont voulu faire frauduleusement, que la partie perdante avait des raisons d'accuser les gagnants de falsification, là, pour bien citer en fait le président de la Commission des affaires étrangères du Sénat russe qui a été dans les personnes qu'on a partagé les déclarations. C'est pas très beau de voir ce qu'on a à l'international. Déjà, tu sais, la réputation des États-Unis est entachée depuis la présidence Trump quand même. Parce qu'avant, on voyait les États-Unis comme cette grande démocratie, ce leader mondial. On les regardait pour du leadership à l'international, ce qu'on a perdu avec la présidence Trump. Et je pense pas que ça aide en ce moment-là. Même les alliés des États-Unis qui se disent regarder ça avec stupéfaction. Parce que moi, là, quand je regardais les images, et je suis certaine que c'est la même chose pour toi et pour plusieurs auditeurs, on n'avait pas l'impression que ça se passait à Washington, que ça se passait aux États-Unis. De voir le Capitole carrément assiégé aussi facilement que ça, c'est du jamais vu.
Avec des conséquences, il y a eu une dame qui a été décédée, qui a été atteinte par balle, Ashley Babbitt. Donc, tout ça tourne un peu, je crois qu'il va y avoir des gens qui vont être accusés d'insurrection à un moment donné. Parce que tout ça était, moi je me rappelle de Trump à un moment donné qui disait à ses fameux Proud Boys de l'extrême droite, stand back, stand by, circulez, mais tenez-vous prêts. Alors, tout ça me semblait organisé, planifié. Tu te ramasses pas, évidemment, des millions de personnes ensemble. Je comprends que ça s'organise sur les réseaux sociaux. Mais lui a alimenté ça volontairement pour arriver là. D'après moi, ça fait longtemps qu'il en parle. Ça fait longtemps qu'il, évidemment, il refuse. Il dit qu'il s'est fait voler, mais il le dit jusqu'à mettre le feu aux poudres. Parce que là, il était en cours. Il a perdu presque 60 fois. Parce qu'il n'y avait aucune preuve, jamais. Moi, si Trump avait gagné, je suis pas un gros fan, là, mais Trump aurait gagné, ça aurait été là, et puis c'est tout, sauf que c'est pas ça qui s'est passé. La différence de vote est énorme, elle est très grosse, même pour les États-Unis. Et je trouve qu'il est un peu au centre de ça, et je me demande même, écoute, je vais faire mon paranoïaque, si c'était pas un peu planifié, je me demande où était la garde nationale. Elle est arrivée après, il fallait qu'elle soit là avant. Te souviens-tu quand c'était les gens pour Black Lives Matter qui manifestaient? T'avais à peu près 2000 Robocop prêts à tuer devant le Capitole. Puis là, il y avait personne, il y avait une couple de gardes de sécurité qui étaient pas gros dans leurs souliers. Quand t'as une foule, puis que le chef en avant, c'est Fred Flintstone avec ses cordes. non, mais j'aurais pas voulu défendre ça avec ma matraque. Moi, j'ai vu le gars reculer avec sa matraque. Monter les escaliers. J'aurais pas voulu être lui du tout. C'était extrêmement épeurant, ça.
Ouais, parce qu'on voyait les images. Des fois, c'était un policier du Capitole qui était là seul face à quoi des dizaines de manifestants qui rentraient dans le Capitole. Ils savaient pas quoi faire. Les gens se barricadaient. Ça avait l'air d'un film américain où on fermait les portes. Les gens étaient couchés au sol. C'était pas rien. Alors oui, où était la garde nationale? Parce juste pour situer les gens. Comme Washington DC, c'est pas un État, la mairesse, même si elle a demandé l'appui de la garde nationale, ça doit venir de plus haut. Ça doit venir de la défense aux États-Unis. Et là, ce qu'on sait, c'est que Donald Trump aurait tardé à demander l'aide de la garde nationale et que finalement, c'est Mike Pence, le vice-président, qui quand même a mieux réagi que le président. On va lui donner ça hier dans la journée. Qui a demandé, qui a fait des pressions pour que la garde nationale, mais écoute, elle est arrivée plus tard en après-midi quand le dommage était fait. 4 morts au total jusqu'à maintenant, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont décédées aussi par la suite. Alors, c'est quand même grave ce qui se passe. Et on va faire un exercice, je pense, ensemble pour expliquer, parce que tu parlais des causes, est-ce que c'est planifié? Mmh. Je vais me mettre dans la tête d'un partisan de Trump, pour un instant.
Oui, mais on te laisse sortir
non,
à la fin de ta chronique,
c'est pour ça que je te dis, on fait un exercice.
Dedans.
Parce que, écoute, si je suis un partisan de Trump, c'est mon président, et je l'entends dire depuis des semaines que c'est une élection frauduleuse, qu'on nous a volé l'élection, qu'on est dans une démocratie, mais que là, il y a vraiment des milliers de personnes qui se sont mis ensemble pour empêcher le président Trump d'avoir un autre mandat de 4 ans, ben j'aurais peut-être le goût de faire une action, surtout quand le président me dit « faites quelque chose, descendez dans la rue ». Il l'a dit hier à midi. Marchez vers le Capitole, on veut se faire entendre, on veut démontrer par la force, mais peut-être pas, il se disait pas de rentrer comme ça, mais quand même, qu'on est là. Et il parlait des autres républicains comme des lâches, comme des pathétiques, s'ils ne s'opposaient pas à la certification du vote du collège électoral. Donc, on était dans un climat extrêmement toxique déjà. Et on n'a pas jeté de l'huile sur le feu. Le bidon est dedans depuis longtemps. Et ça allait arriver. Est-ce que je pouvais prévoir qu'on allait voir ça comme ça et qu'aussi facilement on allait entrer dans le Capitole? Écoute, si ça avait été et c'est pas faire du sensationnalisme, c'est de la pure vérité. Si le mouvement Black Lives Matter, quand on a eu les manifestations de l'été dernier, on avait tenté d'entrer dans le Capitole, on n'aurait pas du tout les mêmes manchettes aujourd'hui.
Absolument pas. Je me pose la question, puis je vais la poser à plusieurs personnes dans la journée. Est-ce que, je sais que ça serait symbolique, mais quand même, ce serait un très, très gros symbole, est-ce que ça peut mériter un impeachment?
Oui, ça, c'est la question, parce que si le président est destitué, il ne peut pas se représenter en 2024. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui penchent vers cette stratégie-là en disant, ben, au moins, on va l'empêcher. Même si il va quand même quitter le 20 janvier, on l'empêcherait de se représenter en 2024. Est-ce que ça peut arriver à 13 jours de la fin du mandat? Ça va être difficile. Aussi, l'autre option, c'est le 25e amendement de dire qu'il est inapte carrément et que Mike Pence prendrait le contrôle de la présidence. Ça va prendre d'autres procédures. Là, ça serait la première fois qu'on évoquerait ça. Mais vraiment, il y a des démocrates qui se disent on devrait le destituer. Si vous pensiez qu'on avait des raisons de le destituer quand il y a eu l'appel, le fameux appel pour faire de la pression sur l'Ukraine, pour enquêter sur le fils de Joe Biden, là, on est dans un autre, comment dire en anglais, un autre ball game. Hein? On est vraiment rendu plus loin.
Un autre
au
registre,
voilà,
dirons-nous au 98.5.
Oui, c'est très voilà. Bien, merci.
on parle de deux partis finalement qui alternent, les démocrates, les républicains tout le temps. Donc, c'est des partis de grande coalition. Chacun de leur côté. Les républicains sont plus à droite, on le sait. Bon, maintenant, à l'intérieur, c'est une grande coalition. Il y a plus l'extrême droite qui se rallie plus à Trump, mais il y a des républicains plus modérés qui sont peut-être plus à droite économiquement, mais qui sont pas pour toutes les folies qui se passent là. Est-ce que tu penses les événements d'hier, parce que c'est tellement énorme, est-ce que tu penses que ça peut créer un schisme au Parti républicain puis le casser en deux?
Écoute, le casser en deux, j'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est certain que là, il y a une division qui est profonde et c'est la faute de Donald Trump et de son entourage. Parce que le Parti républicain, d'habitude, ce qu'ils font, c'est qu'ils restent un peu en famille. Hein. Même s'ils sont pas d'accord avec le président, ils sont pas du genre à le critiquer. On les voyait le suivre coûte que coûte, là, ce que faisait le président, mis à part quelques exceptions, comme Mitt Romney, qu'on connaît bien, là, le sénateur de l'Utah qui s'est déjà présenté à la présidence. Mais mis à part ça, on suivait beaucoup le président Trump. Là, on voit qu'en ce moment, avec cette pression qu'on a mise sur les républicains de ne pas certifier le vote du collège électoral, ça l'a divisé le parti. Parce qu'il y en a beaucoup là, qui disaient, qui se justifiaient. Écoutez, moi, j'aurais aimé que Donald Trump gagne. Il y a des Lindsey Graham, des Mitch McConnell, qui étaient ses alliés de toujours depuis 4 ans, qui ont dit, on aurait tous aimé que ça soit Donald Trump, mais c'est pas ça qui est arrivé. Il y a eu 60 revers devant les tribunaux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? À un moment donné, on a prêté serment à
Val,
la Constitution.
Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Je m'excuse, je voulais pas te couper. Mais je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Mais justement, O'Connell, Graham, il pourrait pas se garder une petite gêne? Parce que jusqu'à hier, là, ils excitaient carrément le président. Ils étaient vraiment dans son camp. Puis là, tout d'un coup, là, c'est des... ils reprennent conscience aujourd'hui. Je trouve ça un peu tard.
Oui, il y en a beaucoup qui disent que c'est hypocrite de faire ça à la fin. Oui, c'est tard, mais en même temps, je trouve ça quand même bien que le leader du Sénat qui dénoncent ce qui se passe. Et t'en as d'autres qui ont continué, malgré ce qui s'est passé hier, là, t'as des Ted Cruz qui ont continué de vouloir contester le résultat du collège électoral. Donc, je me dis qu'au moins, ces personnes-là, même si c'est peut-être trop peu, trop tard, ont quand même dit que, là, écoutez, là, on n'est pas dans des questions au niveau de comment est-ce qu'il a présidé. On est comment ça se termine. Et il y a une constitution. Et aux États-Unis, la constitution, là, pratiquement, il y a Dieu et la constitution en dessous, hein. On est vraiment, là, c'est un à côté de l'autre. C'est très, très important pour les Américains. Alors qu'ils ramènent ça au plancher des vaches, là, qui disent c'est la constitution qui compte. En ce moment, on peut pas renverser ce que les électeurs ont choisi de faire. Je pense que c'était quand même le message à envoyer. Il y avait pas le choix parce qu'en ce moment, eux-mêmes se disent, écoutez, notre parti est divisé. Qu'est-ce qui va arriver? Parce que dans 2 ans, il y a déjà d'autres élections, hein. Ce sera pas l'élection présidentielle, mais on est toujours en élection aux États-Unis. On va voir dans 2 ans déjà les premiers effets de tout ce qui va se passer dans les prochains mois.
C'est ça que je pense parce que quelque part, à un moment donné, moi je crois quand même qu'il va y avoir une brisure. Peut-être pas en deux, effectivement, mais il va y avoir deux tendances qui vont se dessiner, je crois. Je veux dire, même George W. Bush, qui n'est pas le leader de l'extrême-gauche, on s'entend, a été complètement scandalisé suite à ça. Fait que ça va laisser des cicatrices dans ce parti-là. Et moi, mon opinion, je changerai peut-être, là, on verra, je vais suivre les événements. Je ne crois pas que Trump va revenir, mais c'est certain qu'il va y avoir une succession de Trump qui va être à la Trump, parce qu'ils ont vu c'est quoi l'arme du mensonge extrême. Je tiens au terme mensonge extrême, parce que mensonge, c'est pas Trump qui l'a inventé. Il y a déjà des politiciens qui ont menti, mais pas à ce point-là. C'est devenu littéralement un cas psychiatrique à un moment donné. Mais je crois qu'il y en a qui vont comprendre le pouvoir que ça a, que de communiquer comme ça. Celui de Trump va être limité. D'abord, ses 88 millions d'abonnés sur Twitter vont lui être retirés. C'est le compte de Potus, ça va être donné à Joe Biden le 20 janvier, ça.
Ben en fait, il y a un compte personnel qui a continué d'utiliser justement pour ça parce qu'il savait qu'on allait lui retirer. Donc il y a 2 comptes pour Donald Trump, mais son compte Real Donald Trump, celui qui tweet, il va le garder à part s'il se fait suspendre, hein, parce que il y a des menaces de le suspendre indéfiniment, le compte Twitter de Donald Trump. Mais je suis d'accord avec toi que c'est pas la fin du Trumpisme, c'est pas la fin non plus de Donald Trump, qui se présente ou non en 2024, il va être dans le paysage politique aux États-Unis, dans le paysage médiatique aux États-Unis. Je crois que ses enfants vont vouloir aussi être dans la succession, la fameuse dynastie Trump. Là, on en parle déjà depuis des mois avec Don Jr., avec Ivanka aussi qui pourrait vouloir se présenter éventuellement. Donc il y a tout ça qui est là, mais je trouve par contre qu'avec ce qui s'est passé hier, ça a quand même peut-être entaché ce fameux Trumpisme. Parce que là, on avait un mouvement, on avait quand même 70 millions d'Américains qui ont voté pour Trump, peu importe ce qu'il a fait dans les 4 dernières années. Pas tous des partisans purs et durs, mais quand même. Alors, il y avait ces gens-là qui croyaient en ce que Trump faisait, mais là, de voir ce geste non patriotique qui s'est passé hier, c'était pratiquement cet appel à se révolter et à faire on a assiégé carrément le Capitole. Ça, je pense que ça va pas passer pour plusieurs personnes. Donc, on va devoir se recentrer et voir ce qu'on fait pour la suite des choses, surtout pour le Parti républicain, parce que, écoute, ça a aucun sens.
Oui, parce que c'est à deux tranchants, là, cette affaire-là.
Oui, oui.
Évidemment, il y a toujours ce qu'on appelle l'électorat mou, là. C'est-à-dire qu'ils peuvent changer de bord d'une élection à une autre. Eux autres, sont pas ancrés dans un parti. Puis à un moment donné, ils se disaient, ben mon Dieu, l'économie va pas si pire, etc. Fait que bon, on peut bien rester avec Trump. Eux autres, ils viennent de débarquer, là.
Oui, oui, tout de suite. C'est certain. Parce qu'il y en a qui votaient pour Trump aussi, qui avaient changé parce qu'ils disaient, ah, les démocrates, ils s'en foutent carrément de nous, c'est l'élite et tout ça. Donc, nous, on va voter pour Donald Trump parce que c'est du changement. Mais est-ce qu'on pensait qu'on allait se rendre aussi loin, qu'on allait se rendre là? Non, je pense pas. Économiquement parlant aussi, on avait voté pour Donald Trump. On a vu ce qui s'est passé avec la pandémie. Ça a pas aidé à l'économie aux États-Unis. Donc là, je vais dire ça comme ça. Pour les partisans du président, c'est plate ce qui se passe parce que l'héritage de l'administration Trump, ça va être ce qui vient de se passer. De contester les élections jusqu'à la toute fin, qu'on ait fait tout ce qui s'est passé au Capitole.
C'est-à-dire de se moquer complètement de la vérité tout le temps, puis de pousser ça jusqu'au maximum qu'on peut. Oui, et là, oui. Trump vient de garantir lui-même une passation des pouvoirs qui va se passer comme il faut, puis qui va être propre, mais c'est parce que là, je pense qu'il y a eu chaud à ses fesses. Valérie, je continuerai, mais tu connais le format radio, au moment donné, il faut faire une coupe de pub, il faut payer le loyer, comme on dit.
Oui.
Mais je te remercie beaucoup. puis je finis demain, mais j'espère qu'on va se recroiser bientôt puis qu'on aura d'autres discussions comme ça. Merci beaucoup, Valérie.
Merci, c'est toujours un plaisir. Bonne journée.
Bye. C'était Valérie Beaudoin, qui est chercheure associée à la chaire Raoul Landurant, chroniqueuse politique américaine au réseau Cogeco. Après la pause, on revient avec Donald Cuccioletta. Alors, je vous rappelle notre premier sujet, parce que c'est quand même arrivé vite, fort et violent. On se demande si Trump peut être accusé d'une façon ou d'une autre pour les événements d'hier. Il y a plusieurs façons d'accuser. Il y a l'impeachment, il y a le 25e amendement, il y a aussi le poursuivre pour une insurrection plus tard, après son mandat. Il y a plein de choses qui sont ouvertes, mais je trouve qu'à un moment donné, selon les opinions politiques de l'un ou de l'autre, on varie beaucoup de conséquences là-dessus. J'aime ça parler à des experts. Et j'aime beaucoup mon prochain invité, Donald Cuccioletta, qui est chercheur associé à la chaire Raoul Landurant, lui aussi, de l'UQAM, et spécialiste de la politique américaine. Et c'est le seul qui dit Barack Obama en anglais quand parle français. Salut Donald, comment tu vas?
Bonjour Dan, ça va très bien. La santé est bonne?
Oui, moi, tout est correct, puis confinement, je suis d'accord, puis tout est
bon. Non. Mais, super.
Il n'y a pas de problème, on va faire tout ce qu'on a à faire. Ceci dit,
exactement.
Il doit y avoir un avocat qui traîne quelque part, qui prépare,
qui
prépare quelque chose, parce que c'est pas possible que ça se passe comme ça. Je veux dire, son implication est même pas cachée, là. Il les a encouragés.
Pas du tout.
Même pas à mots couverts, là.
Pas du tout. On l'a vu d'ailleurs dans son petit discours à la toute fin, un des reportages faits par la télévision. Il dit clairement que, effectivement, les gens doivent retourner chez eux, même si on nous a volé l'élection. On sait que l'autre côté, oui, ils le savent. Donc, on parlait des démocrates. Ils nous ont volé l'élection. Ils le savent. Ils sont coupables. Puis là, allez-vous entre vous, chez vous, tranquillement, là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, etc., etc. Donc, il y a toujours un discours à deux volets, et c'est clair que les gens qui le soutiennent, comme on a vu hier, puis tous ceux qui ont voté pour lui en 2016, qui continuent à voter pour lui en 2020, et ils le soutiennent, comme on a vu hier devant le Capitole, finalement, croient beaucoup que ce qu'il dit. Donc, c'est sûr que il y a sûrement un avocat à quelque part, qui va attendre qu'il soit plus le président des États-Unis pour mettre en place, finalement, une mise en demeure pour incitation à la violence. Mais avant ça...
Que ça peut aller jusqu'à fomenter une insurrection? C'est
absolument
grave, ça.
Absolument. C'est grave, ça, absolument. Donc, il y a sûrement quelqu'un, comme déjà le procureur général de Manhattan, M. Vance, a déjà commencé à préparer le dossier pour l'après Trump au niveau de ses paiements d'impôts. Hein? C'est déjà préparé, on l'attend de pied ferme à Manhattan sur ça. Il faut dire aussi que Mike Pence, qui est le vice-président, peut consulter, il a le droit, selon l'amendement 25 de la Constitution américaine, de consulter le cabinet, et en faction avec cette consultation-là, voir si eux autres ils peuvent mettre l'avant l'idée que M. Trump n'est pas apte à finir son mandat, qui reste 2 semaines.
Et là, ça serait très risqué pour M. Pence de faire ça politiquement, parce que lui, il veut prendre la succession, peut-être, il veut se présenter,
T'as fait raison. Lui, écoute, en arrière de la tête, il a décidé que lui se présentait en 2024. C'est pas pour rien qu'il s'est distancé de plus en plus de M. Trump depuis quelques semaines, et surtout quand M. Trump l'a appelé à plusieurs reprises, puis il dit, écoutez, là, je veux pas que le vote passe, là. Je veux que vous arrangez ça, là, quand vous allez faire le vote au niveau du Congrès, qu'effectivement, M. Biden n'est pas le président. Puis M. Pence a dit non, on va laisser les votants parler, on va laisser les votes parler, et c'est comme ça que ça va se passer. Donc, ça veut dire, s'il s'est distancé de Donald Trump, donc je vois mal qu'il revienne, effectivement, sur une question de destitution, écoute, à 2 semaines du départ du président. Je pense qu'on va laisser ça dans les mains des bureaux d'avocats, ou même un procureur général au Bronx, à Staten Island, qui décide, lui, qui va le poursuivre pour la question d'incitation à la violence.
Je comprends, mais s'il voulait le destituer, ça ne serait pas pour l'empêcher de gouverner, il a fini, là. Mais ça serait un message très symbolique fort.
On a essayé avec le rapport Mueller, puis ça n'a pas fonctionné. Mais là,
Mueller a dit qu'il a dit, quand il a témoigné au Congrès, il a dit que la raison qu'il ne l'avait pas accusé, c'est qu'il ne pouvait pas accuser un président en fonction.
Ben non, il a le droit d'accuser le président en fonction. Ah oui. C'est ça le but d'une destitution. Ça veut dire qu'on rentre à ce moment-là dans une période de destitution où est-ce que ça devient un procès, hein, Dan? Ça veut dire que M. Trump a le droit d'amener sa batterie d'avocats, comme le Congrès a le droit d'amener son batterie d'avocats, puis là, on part en guerre là, au niveau de la jurisprudence américaine, selon la Constitution américaine. Non, mais tu as tout à fait raison. Mike Pence n'a pas intérêt de commencer cette procédure-là, surtout, comme tu l'as dit, à 2 semaines où est-ce qu'il doit s'en aller. Là. Pour le 20, M. Biden va devenir faire la sermentation de la présidence des États-Unis. Donc, M. Pence n'a pas intérêt, surtout, puis moi, je suis de plus en plus convaincu que M. Pence veut se présenter en 2024 à la présidence des États-Unis pour le Parti républicain. Donc, s'il veut garder, disons, les certains récalcitrants au sein du Parti républicain qui soutiennent encore M. Trump, M. Pence a besoin de ces gens-là dans des États-clés comme M. Ted Cruz au Texas. Imaginez-vous, au Texas. Donc, lui, il n'a pas intérêt d'aller dans ce côté-là. Puis, ni les membres du cabinet qui doivent leur travail à M. Trump. Puis, par la suite, s'ils continuent à travailler pour le Parti républicain, ils doivent leur travail au Parti républicain. Puis, ça veut dire, éventuellement, M. Mike Pence aussi. Donc, non, je pense que ça, ils vont mettre ça de côté. C'est sûr que les démocrates aimeraient ça, parce que ce serait une façon de continuer la bataille contre Donald Trump, de le continuer de le mettre à la lumière de tout ce qu'il a fait depuis 4 ans, surtout ce qu'il a fait depuis le 4 novembre, etc., puis qu'est-ce qu'on a vu hier en plus. Donc, c'est clair, les démocrates adoreraient ça, mais je pense que même M. Biden n'est pas prêt à aller là non plus, parce que lui, maintenant, ici, avec le vote des 2 sénateurs
au Sénat... Pouvoir gouverner, là.
Il va pouvoir gouverner, vous savez, modestement, il faut s'entendre, là, c'est jamais gagné d'avance, ces choses-là, mais néanmoins, il peut commencer à gouverner. Donc, lui, dans sa tête à lui, c'est ça qu'il faut qu'il doit faire, et il doit faire devant lui, sur son agenda, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, se préoccuper d'une destitution avant 2 semaines de sa sermentation, ça peut retomber sur les démocrates aussi, parce que la population américaine sont un peu tannées de ça aussi. Même les démocrates que moi je connais sur le plancher un peu qui travaillent pour les partis démocrates, qui travaillent pour M. Biden, me disent...
On a toujours parlé de lui, hein?
Ah oui, on est tanné, là. Qu'on passe à autre chose, on a gagné les élections, qu'on soutient M. Biden, puis qu'on aide de l'avant avec notre agenda, là. Surtout qu'on vient de gagner les 2 sénateurs aujourd'hui, là. Écoutez, là. Fait que laissons les avocats ou les bureaux d'avocats, laissons peut-être un procureur général à quelque part qui veulent aller de l'avant par rapport, finalement, à l'incitation à la violence. Ça, ils ont le droit de le faire, mais ça, c'est la jurisprudence américaine.
Oui, mais c'est, alors, j'ai une question là-dessus, justement. C'est parce que j'essaie de me rappeler un acte similaire dans le passé américain, puis en tout cas, il n'y en a pas de récent, c'est certain.
Non.
Est-ce qu'il existe une jurisprudence aux États-Unis là-dessus?
Ben oui, il y en a, absolument. Mais c'est la jurisprudence, mais ça touche pas nécessairement la Constitution. Ça touche effectivement la jurisprudence d'un État, finalement. Puis il faut pas oublier, hein, depuis la fin de la guerre civile, on a passé des amendements parce que les États n'ont pas le droit de se séparer. Puis personne devrait effectivement pousser l'idée même au niveau d'une insurrection pour séparer les États des 50 États américains. Donc, dans ce sens-là, c'est une incitation à la violence. Donc, l'interprétation peut être prise comme ça. Puis, comme tu sais, Dan, au niveau de la jurisprudence, dans tous les pays du monde, c'est une question d'interprétation des lois et des règlements qui existent. Donc, il y a quelqu'un sûrement qui travaille là-dessus présentement, puis il regarde ça de très près. Donc, parce qu'on ne voudra pas nécessairement que M. Trump non plus se représente en 2024 comme indépendant.
Moi, je pense qu'il ne pourra pas pour une raison précise. Est-ce que les gens commencent à remarquer que l'acharnement de Donald Trump n'est pas dû seulement à son narcissisme, mais qu'il sent très bien que là, il va se faire accuser. Il y a tellement de procès qui l'attendent, c'est fou. Il y a une dette de 300 millions qui vient à échéance. Il est dans la chenoute, sérieusement. Là, en étant plus président, il ne pourra plus se présenter après ça. Là.
Ben écoutez, il y a quand même eu 73,7 millions qui ont voté pour lui. Puis ça,
oui,
c'est
avant.
Oh non, non. Et là, ceux qui sont dans la rue, là, ils le soutiennent encore, là.
Oui.
N'oublie pas, là. Puis, ils n'étaient pas tous là, là. Puis, il ne faut pas oublier, de 2016 à 2020, il est allé chercher 10 millions de votes de plus. 10 millions de votes de plus, ça s'est jamais vu dans les pour un candidat du Parti républicain, ça. Jamais.
Mais ça s'est jamais vu chez les démocrates non plus. Lui,
non plus.
À 83 millions, c'est quand même un record aussi.
Oui,
donc,
mais lui,
tout le monde
lui, allait chercher une base. Mais sa base qui le soutienne, c'est des gens qui étaient dans la rue hier. C'est ce que j'appelle la faction à l'intérieur du Parti républicain et aussi dans la société américaine, que j'appelle le populisme d'extrême droite.
Oui.
Ah, écoutez, là, c'est ça qui était là hier. C'est ça qui était là hier. Et donc, ça, c'est des gens qui lâcheront pas prise. Puis moi, je regardais les drapeaux, parce qu'il y avait bien des drapeaux aussi. Drapeau américain, drapeau du Parti républicain, drapeau de Donald Trump, mais il y avait aussi des drapeaux du Tea Party, mes amis.
Ah ben oui, ils existent toujours, on n'en entend jamais parler, mais oui.
Ils existent toujours, puis moi je pense qu'une bonne partie du monde qui était là, c'est des anciens du encore membres du Tea Party. Puis il faut jamais oublier, c'est lui qui a mené la charge hier au niveau du Sénat, Ted Cruz. Il est aussi encore aujourd'hui, même s'il est membre du Parti républicain, il est sénateur du Texas, il est aussi membre du Tea Party.
Oui, on l'avait oublié, ça, parce qu'on en parle.
Ah oui, on l'avait oublié très vite. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, le Tea Party, depuis, effectivement, sa fondation sous la présidence de Barack Obama? Ils se sont infiltrés davantage dans tous les appareils du Parti républicain, à partir du fédéral jusqu'au niveau local.
Est-ce que... moi, je te demande ça parce que c'est clair qu'aux États-Unis, ayant seulement deux partis, il y a des gens qui sont campés vraiment sur leur position. Tu viens de nommer certains pro-Trump qui sont vraiment de l'extrême droite. Il y a des gens qui sont complètement démocrates, qui ne changeront jamais d'idée dans toute leur vie. Oui. Mais c'est pas là où l'élection se joue. C'est dans les électeurs qu'on appelle mous, c'est-à-dire ceux qui changent d'idée, puis qui peuvent se promener, et qui, pendant un bout, quand c'était gouverné, se disaient, l'économie vaut pas si pire, on peut rester avec Trump, c'était correct. Mais tous ceux-là viennent d'être perdus là, avec l'événement du Capitole. Là.
Oui, mais les autres aussi, ils changent d'idée. C'est des indépendants. Puis il ne faut pas oublier que quand on s'inscrit aux listes électorales, il faut dire de quel parti on est. Donc, les trois sont là. Républicains, démocrates, indépendants. Donc ça peut shifter, ça peut changer, effectivement. Selon que tu dis, en premier lieu, l'état de l'économie. Ça, c'est numéro un aux États-Unis.
Ah oui,
et deux, l'état, finalement, est-ce que ça me profite, cette économie-là? Et de trois, peut-être, effectivement, la politique étrangère, mais, disons, en troisième rang assez éloigné, parce que la politique étrangère touche rarement l'élection d'un président. Mais effectivement, c'est les indépendants. Mais moi, ce que je mets en question, c'est que c'est toujours les deux partis en charge qui contrôle tout, de A à Z. C'est pour ça que moi, quand j'entends parler que les États-Unis, c'est une grande démocratie, pour les deux partis, républicains et démocrates.
Oui.
Mais pour un troisième, quatrième, cinquième, ils n'existent pas. Fait que pour moi, je dis toujours, oui, ils ont une constitution. Oui, mais c'est pas nécessairement un pays démocratique, selon moi. Tant aussi longtemps qu'un troisième, quatrième, cinquième parti peut se présenter, ne serait-ce que dans les primaires, parce que tu sais, pour se présenter dans les primaires, hein, qui est un peu la fenêtre que toute la population américaine et le monde regardent qui pourrait être éventuellement les candidats des deux grands partis, effectivement, les autres troisième, quatrième, cinquième, sixième partis n'ont pas le droit d'y participer. Et la seule façon que tu peux y participer, c'est si tu deviens membre d'un des deux grands partis. C'est pour ça que M. Sanders, à chaque fois qu'il se présente à la présidence, il prend toujours sa carte de membre du Parti démocrate.
Ben oui, je comprends. Et c'est comme ça que Trump est devenu républicain.
Voilà, exactement. Coup. Puis qui était démocrate avant. Donc, vous voyez, ces deux-là qui contrôlent de A à Z.
Ça me fait penser à une phrase de Richard Desjardins. Il dit, c'est bien beau, démocratie, il ne reste plus juste à avoir maintenant le choix quand on va voter.
voilà.
Je te remercie beaucoup. Faut que j'aille une pause, Donald. Hey, juste me faire plaisir, mon cœur d'enfant, là. Dis-moi Barack Obama.
Barack Obama.
Merci beaucoup, Donald. Prends soin de toi.
Bye-bye.
Donald Cucciolotta, qui est chercheur associé à la chaire Raoul Landurant de l'UQAM, spécialiste de la politique américaine. On revient après la pause.